Alors, j'espère que vous êtes de bonne humeur. Moi, je suis très bonne humeur ce matin. Le texte qu'on va regarder et la vérité qui est à l'intérieur, c'est une vérité qui me touche profondément, qui fait partie de mon histoire de personnel, de salut, de vie avec le Seigneur, de réveil spirituel. Une vérité tellement importante, on peut mettre le PowerPoint, qui fait partie justement de la vraie nature du christianisme qu'on regarde cette série dans Romains 8. Et c'est le sixième message ce matin, c'est bien ça, oui, sixième message qu'on entreprend. Et c'est la vérité qu'il n'y a aucun abandon. Et là, tiens, pour le montrer comme de quoi qu'il n'y en a pas, aucun abandon. Qu'est-ce qui est derrière cette vérité-là, qu'il n'y a aucun abandon? Bien, un peu comme l'image le montre, naturellement, on voit que ce jeune garçon, malheureusement, est abandonné. Ça veut dire quoi? Il est laissé à lui-même. Ça veut dire quoi? Il n'est pas accompagné. Il n'est pas encadré. Il n'est pas soutenu. Il est, comme on dit l'expression, seul au monde. En tout cas, je suis certain qu'il doit se sentir très seul, délaissé, abandonné. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça a été une chose qui a fait partie de ma vie, ce sentiment. Et je comprends là, que c'est un sentiment, mais ce sentiment-là était souvent corroboré par les circonstances de la vie où je me sentais seul, complètement laissé à moi-même. Et ce, malgré le fait que je connaissais le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel. J'avais souvent cette difficulté-là ou cette réalité-là que je me sentais seul. Et là, je me demandais pourquoi ceci, pourquoi cela, Dieu, pourquoi il permet ci, pourquoi il permet ça, il est où, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Et je vous ai déjà conté l'histoire de notre premier enfant qui est né, où ça avait vraiment mal été, où Christina avait fait une préclampsie, donc rien fonctionnait. Même une infirmière très gentille a dit, avez-vous eu un médecin qui vous a suivi? Je dis, ben oui, on a eu un médecin qui nous a suivi tout le long, on a fait toutes les procédures, les coprénataux, les respirations, toutes ces affaires-là, là, tu sais, c'est incroyable. Mais là, elle dit, on dirait que vous avez jamais été accompagné. Elle dit, il n'y a même pas de dossier médical, de son dossier médical qui devrait être à l'hôpital, il n'est pas là. Je dis, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est pas moi. C'est la première fois qu'on a un enfant, on ne connaît pas ça, ces affaires-là. Elle a passé proche de mourir. Et là, je me souviens, j'étais dans la salle de bain, puis là, j'étais en... Prenez-vous en fusil, là, pour dire ça comme ça. J'étais vraiment fâché. Là. Je comprenais pas. Là. Puis là, il y avait une autre madame qui était là, puis dans ce temps-là, ça fumait à l'hôpital. Là. Puis la madame, elle fumait, puis elle sacrait. Elle « wait donc! » Elle a eu son bébé en l'espace d'une heure. Fouf! Puis nous autres, des heures et des heures et des heures. Puis finalement, ça a été la chirurgie par urgence, césarienne. Ma femme a pas ses proches mourir, notre enfant a pas ses proches mourir, je comprenais plus rien. Et là, j'étais fâché. Vous êtes déjà arrivé d'être fâché? Non, mais contre le Seigneur, là? Ah, ben, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, il n'y a pas plus de monde que ça. Jamais. En tout cas, moi, j'ai envie des affaires dans ma main, mais là, c'est parce que je me sentais seul, abandonné. T'es où, Seigneur? Je comprends rien. Comment se fait que? Puis nous autres, que? Puis on a fait ça, puis on se consacre à toi, on cherche ta face, on va faire ta volonté, on va faire ce qui est bien, puis là, plouc, on est laissé à nous autres mêmes. Et là, pendant que j'étais dans les toilettes en beau fusil, j'ai eu la présence d'esprit d'ouvrir la parole de Dieu. Mentionné, premièrement, dans Actes 20, 36, c'est pas nécessairement dans un ordre précis, là, mais dans Actes 20, 35, excusez, ça nous dit qu'on est pauvre dans le sens matériel, on est nécessiteux. Par exemple, quand ça dit, Paul dit, c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Ce qu'il est en train de dire, c'est quoi? Les nécessiteux, ceux qui sont pauvres. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, c'est clair dans le contexte qu'il s'agit d'une pauvreté matérielle. Deuxièmement, 5-5-6. C'est l'idée d'être malade. Donc, on est pauvre dans le sens qu'on est physiquement diminué ou on est infirme. Et là, ça dit, là, à la piscine de Bethesda, se trouvait un homme malade, on pourrait dire un homme faible depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu retrouver la santé? » Donc, la santé, c'était ici l'inverse de la maladie. Alors, « Veux-tu retrouver un état sain? » C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, deuxième sens, c'est l'idée de maladie. Troisième sens, c'est d'être sans force, d'être impuissant en soi-même. 1 Corinthiens 1:27. Quand il dit « Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre avec les ceux qui sont fortes. » Vous voyez, l'idée ici d'être faible et fort, donc ici c'est l'idée d'être incapable de fonctionner par soi-même. Alors donc, cette idée-là d'être faible, c'est-à-dire « j'y arrive pas », il y en a qui semblent y arriver, ils sont autosuffisants, ils sont performant, ta-ta-ta-ta, mais ici, il y a une réalité de faiblesse que ceux qui sont venus à la foi ont reconnu et qui ont vu que leur vie ne fonctionnait pas et qu'ils avaient besoin de Dieu dans leur vie. C'est ça que Paul dit. Il n'y en a pas beaucoup, là, qui étaient des gens forts, dans le sens des gens qui, ça allait bien partout, 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 et ils sont venus au Seigneur. Il y en a dans le sens qu'ils n'avaient pas de difficultés particulières, mais il n'y en a pas autant que ceux qui sont faibles. Et finalement, 1 Corinthiens 8:9, c'est d'être faible dans sa foi. Donc, je suis chrétien, mais j'ai de la difficulté à ma stabilité dans ma foi. Parce qu'il dit, par exemple, 1 Corinthiens 8:9, prenez garde toutefois que votre liberté, c'est-à-dire le fait que vous êtes capable de faire certains aliments, est tout à fait en paix avec Dieu, que vous n'avez pas l'impression de pécher et que vous ne péchez pas non plus. Alors, parce que c'est votre liberté, ne devienne une pierre d'achoppement pour qui? Pour les faibles. Là, ici, il parle de qui? Il parle de chrétiens qui ont une difficulté au niveau de l'affermissement de leur foi. Voyez? Et là, il y a quelque chose qui leur manque, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Et je vous ai déjà parlé de moi dans un cas où, à un moment donné, j'ai arrêté de faire du ski alpin. Pourquoi j'ai arrêté de faire du ski alpin? C'était-tu mal? Non, mais moi, oui. Pourquoi c'était mal pour moi? Parce que j'arrivais pas à faire du ski alpin et à honorer Dieu en même temps. Il y avait une difficulté entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie. Et là, j'y arrivais pas. Fait que j'ai vendu mes skis alpins, puis je me suis acheté des skis de fond. Et là, avec mes skis de fond, j'avais pas de problème. Maintenant, j'ai refait du ski alpin et je vivais plus pantoute. Là, je parle de plusieurs années après. Je vivais plus pantoute ce que je vivais à ce moment-là. Vous voyez, c'était une question personnelle. C'était pas une question que tous les chrétiens devaient pas faire de ski alpin. Mais dans mon cas, c'était ma réalité. Et devant Dieu, je savais que c'était la bonne décision à prendre. Et je l'ai pris. Et Dieu a fait son œuvre par la suite. Et là, j'ai pu faire du ski alpin, même si je pouvais intérieurement, mais physiquement, j'avais bien de la misère. Malheureusement. Ouais, c'est comme ça. Regardez bien. Je vais vous lire deux textes. 2 Corinthiens 13:4. Car Christ a été crucifié en raison de sa ou de son obéissance. Car Christ a été crucifié en raison de sa faiblesse. Mais il vit en puissance de Dieu. Donc le contraste, c'est quoi? La puissance de Dieu et l'absence de puissance que Christ avait dans sa vie quand il était sur la terre. Ça, là, le contraste. Il y avait une faiblesse, là. Jésus était faible. Maintenant, il était pas pauvre, il était pas nécessiteux, c'était pas ça. Il était pas malade, il était pas infirme non plus. C'était pas une question qu'il avait une faiblesse au niveau de sa foi. Donc, nous aussi, Paul dit, et là, il montre, là, on peut comprendre dans son cas, nous sommes faibles en lui. Là, t'as-tu peur? Non, on est fort en lui. On n'est pas faible. Mais il dit de la même faiblesse que Christ a, nous aussi, on a la même faiblesse en lui. Parce qu'on s'est identifié à lui, on est uni à lui. Donc, si lui était faible dans son état d'homme, à 100% homme sur la terre, même s'il était Dieu, on comprend ça. Mais dans son état d'homme, il était dans un état de faiblesse. Alors, nous, étant unis à lui, ben nous aussi, on n'ira pas aux autres. Nous, on est forts. Hey, nous, on l'a l'affaire. Nous, là, c'est incroyable. Les miracles, les manifestations de l'Esprit dans notre Église, c'est incroyable. Puis là, bing, bang, bang, paf! Ah, vous, vous êtes forts. Vous, vous régnez, les Corinthiens. Nous autres, on est encore en train de lutter avec la réalité de ce monde. Vous, vous êtes d'une classe à part. Là, ici, il monte, et là, il emmène cette vérité-là dans ce contexte-là en disant, non, il est correct, c'est correct d'être faible. C'est correct de reconnaître que même si on est uni à Christ, là, on est encore dans un état de faiblesse. Paul le dit dans Romains 8, on est toujours dans un état de faiblesse et c'est lié même à notre vie de prière. 2 Corinthiens 13, 9, nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous, les Corinthiens, vous êtes forts. Et ce que nous souhaitons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Et savez-vous ce que ça veut dire pour les Corinthiens, leur perfectionnement? C'est que vous arriviez à constater votre état de faiblesse en Christ. Parce que tant et aussi longtemps que vous allez vous penser au-dessus de la mêlée, meilleur que spirituel, quand vous êtes charnel, et voici les manifestations du fait que vous êtes charnel, et que parce que là, il y a des manifestations de l'Esprit dans l'Église, mais qu'en même temps, il y a des manifestations de la chair encore plus grosses que n'importe quoi d'autre, vous avez besoin de perfectionnement. Et ça veut dire que vous avez besoin de prendre un pas par en arrière et de dire, « Wow, peut-être que je suis pas aussi fort que je pense. » Comme quand ça dit même que celui qui pense être debout fasse attention de ne pas tomber. Et nous, là, comme chrétiens, je vous le dis, là, c'est bon pour nous de savoir qu'on est faible dans le sens que Jésus l'était et que Paul dit aussi qu'il l'était. Alors, de quelle faiblesse s'agit-il? Est-ce que c'est l'impauvreté matérielle, maladie physique, manque d'affermissement dans la foi? Bien, c'est sûr que pour Jésus, c'était différent que nous, malgré tout ça, mais c'était Jésus reconnaissait son impuissance en lui-même. Que Jésus, en lui-même, il ne l'avait pas. Jésus, sans son Père, il n'aurait pas réussi sa mission. Jésus, sans le soutien et la présence du Saint-Esprit dans sa vie, aurait pas été capable de faire ce qu'il a fait. Pour moi qu'il dit, là, c'est lui qui le dit. Je vais vous lire Jean 5, 30. « Moi, dit Jésus, je ne peux rien faire par moi-même. » C'est écrit, là, Jean 5, 30. « Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 14, 10. « Ne crois-tu pas, Philippe, que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Les paroles que je vous ai dites ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait le travail, c'est lui qui accomplit ces œuvres-là. Et là, Romains 8, 26, de même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Jésus, lui, savait qu'est-ce qu'il devait demander dans ses prières. Mais on sait que même dans le jardin de Gethsémané, lorsqu'il a prié une chose, il a demandé après ça en disant à son Père, « Toutefois, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors lui était en harmonie parfaite avec le Père. Mais ça n'enlevait pas sa dépendance complète envers son Père, et d'autant plus que nous, on a besoin de cette dépendance. Et là, nous, ça se reflète même dans notre vie de prière. Parce que ça dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, Romains 8, notre faiblesse se manifeste dans nos prières par notre difficulté spirituelle à comprendre et à discerner la volonté de Dieu dans certains domaines ou certaines situations de notre vie qu'on ne peut pas juste se référer à un verset en particulier pour dire, ben voici, ça c'est la volonté de Dieu. Donc, il y a plein de domaines dans nos vies où on a de la difficulté à bien comprendre la pensée de Dieu ou à discerner sa volonté. Et ça, Paul le savait, et c'est pour ça qu'il introduit cette vérité qu'on n'est jamais seul, on n'est pas abandonné. Alors, selon Paul, notre faiblesse est en lien avec notre vie de prière. C'est le fait d'éprouver des difficultés avec le sujet ou le bien fondé de nos requêtes, comme il dit, ne sachant pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Et ici, il ne parle pas d'une façon absolue, dans le sens qu'à chaque fois qu'on prie, on ne sait pas quoi demander, mais il dit, ne sachant pas ce qu'il convient alors dans plusieurs occasions, de demander qu'est-ce qu'on devrait demander à Dieu. Et Jacques ajoute lui-même dans sa lettre que non seulement on ne sait pas quoi demander, mais que parfois on ne demande tout simplement pas, ou quand même on demande mal. Et là ici j'ai le verset, le texte, Jacques 4, 1 à 3, quand il dit « d'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. » Et on peut présumer ici, on ne demande pas à Dieu parce qu'on veut pas qu'il contrarie ce qu'on voudrait avoir. Tu sais, ça arrive ça des fois, que par crainte de se faire dire non, on n'en parlera pas, mais on va agir en conséquence et on va faire tout ce qui est nécessaire pour obtenir ce qu'on veut. Ou encore verset 3, ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Et donc là, c'est centré sur nos besoins. Et Jésus ajoute un élément crucial, naturellement, lorsqu'on parle de notre vie de prière, dans Jean 15, 7, lorsqu'il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Vous voyez, là, ici, il y a comme cette relation-là d'intimité avec Jésus, où là, tout à coup, on n'est plus autant une main grande que là, tout ce qu'on va demander, et ça va nous être accordé. Parce que ce qu'on demande, naturellement, est en harmonie avec la volonté de Dieu. Par contre, comme Paul dit, quand on n'arrive pas à le faire, l'Esprit vient et nous prend la relève. Le problème, c'est qu'étant dans un état de faiblesse humaine encore lié à la chair et au péché, nous ne savons pas parfois ce que nous devrions demander ou ce qu'est la volonté de Dieu. Et là, ici, j'ai une citation de John Piper qui dit ceci. « Alors, pourquoi ne savons-nous pas parfois ce pourquoi nous devrions prier? Je pense que la réponse est « Nous ne connaissons pas la volonté secrète de Dieu sur nos maladies » et sur nos difficultés. Nous ne savons pas si nous devrions prier pour la guérison ou pour la force de la supporter. » Et naturellement, souvent, on aime mieux prier pour la guérison, mais parfois, Dieu aussi veut qu'on prie pour simplement passer à travers l'épreuve ou la maladie en question. Alors, bien sûr, les deux sont justes et il n'est pas mal de prier pour l'un ou l'autre. En soi, il n'y a rien de mal à prier pour que Dieu me guérisse, ou que Dieu m'aide à passer à travers. Autrement dit, celui qui prie pour que Dieu l'aide à passer à travers sa maladie, son cancer, la situation dans laquelle il est, qui semble être non guérissable humainement parlant, il manque pas de foi, là. Non, ça peut être simplement la direction que Dieu lui donne de prendre. Et c'est tout à fait honorable, et c'est tout à fait à la gloire de Dieu. Et même souvent, Dieu se sert de situations où une personne qui est née de nouveau passe par un cancer qui est terminal et finalement témoigne autour de lui, puis des gens viennent à Christ simplement à cause de sa façon d'être, sa façon de passer à travers cette maladie-là et de donner gloire à Dieu. Mais nous aspirons à prier avec une grande foi et nous gémissons parce que nous ne sommes pas sûrs à 100% de ce que sera la volonté de Dieu avec cette maladie ou cette épreuve. Humainement, étant toujours dans un état de faiblesse, on ne sait pas. Alors, la solution, Paul nous dit, c'est que notre union avec Christ nous assure le secours, l'assistance et l'intervention de l'Esprit, et particulièrement avec notre vie de prière. Et là, il y a trois domaines où notre vie de prière a besoin de secours, d'assistance et d'intervention de l'Esprit. Un, lorsque nous sommes incapables de voir ou de verbaliser notre besoin de Dieu, donc ça arrive. Lorsque nous sommes incapables de discerner ce que nous devons demander, ça aussi, ça arrive. Et lorsque nous sommes incapables de connaître la volonté de Dieu précise pour la situation dans laquelle on est. Et ça, il y en a, comme je disais tantôt, beaucoup de situations où ça existe. Alors, la deuxième chose qu'on doit voir, qu'on doit remarquer, c'est que le verset 26 commence avec les mots « de même » ou de la même manière. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il utilise ces mots-là? Donc, l'expression de même ou de la même manière indique que Paul, ce qu'il fait dans le fond, il continue à expliquer ce qu'il a commencé à démontrer préalablement sur la vraie nature du christianisme à partir de Romains 8, 1. Donc, étant unis à Christ, nous sommes assurés. Donc, il y a une assurance, là. Il n'y a donc maintenant, comme je disais tantôt, aucune condamnation, aucun vide, aucun cul-de-sac, aucun déshéritement, aucune vanité, et de même, ou de la même manière, aucun abandon. Donc, il fait un lien avec toutes ces vérités-là, simplement en démontrant qu'est-ce qui était au précédent. Et justement, dans les versets précédents, les versets 18 à 25, il a donné plusieurs raisons pour lesquelles on peut être plein d'espérance au beau milieu de quoi? La futilité, la décadence, les gémissements, autant les nôtres que ceux de la création, et même face à la mort. Et là, ici, Paul veut à nouveau nous rassurer dans les versets 26-27 face à un domaine clé de notre parcours spirituel avec Dieu, notre vie de prière, en nous expliquant tout simplement que l'Esprit nous aide malgré notre difficulté que nous éprouvons parfois avec la prière. Il y en a-tu qui ont de la difficulté parfois avec la prière? Hein? Un petit peu? Ouais. Et je parle pas juste de la régularité avec la prière, mais même de quoi demander exactement dans nos prières. Ça nous arrive à tous. Et là, ici, on va terminer avec quelques petites réflexions, puis j'ai aussi une citation de Dane Ortlund. Moi aussi, Michel, j'ai une citation de Dane Ortlund. Ça? Ouais, sur l'œuvre glorieuse de l'Esprit, qui est très, très juteuse, comme celle que tu as mentionnée tantôt, qui était très bénissante aussi. Alors, une chose qui est encourageante pour nous, qui sommes encore faibles, dans un état de faiblesse, c'est de savoir que Dieu ne s'attend pas à ce que nous connaissions parfaitement sa volonté en toute situation et en tout temps. Il nous connaît. Il sait que nous, on est limités, qu'on voit pas tout, on n'a pas sa perspective que lui a d'en haut et du fait qu'il est Dieu. Nous, on est là, puis on voit juste quelques éléments, puis on chemine, puis on essaie de grandir, puis on cherche la face de Dieu. Puis Dieu, il est gracieux, il est bon. Il dit, fais-toi-en pas, oui, cherche-moi, cherche ma face, mets devant moi des sujets de prière, des besoins, des choses que tu aimerais, des projets, toutes ces affaires-là, mais fais-moi confiance, je sais qu'est-ce que je suis en train de faire et je poursuis un plan merveilleux pour toi. C'est pour ça que parfois les choses ne vont pas exactement comme on aurait aimé qu'ils vont, mais on doit lui faire confiance. Et là, Dieu, il dit, c'est correct, je suis là. Je suis là pour te backer, je suis là pour t'aider et je vais le faire. Deuxième chose, c'est que Dieu comprend nos frustrations. Il comprend aussi nos exaspérations devant les difficultés, la futilité de la vie ici-bas et l'état de faiblesse de notre corps mortel dans lequel on est encore et on attend la rédemption de notre corps. Dieu, il comprend ça. Alors, respirons, tu sais. On est des fois plus dur envers nous-mêmes que Dieu l'est envers nous parce que lui, il connaît notre état de faiblesse. Troisièmement, son œuvre ne se limite pas à notre compréhension de nos besoins, de sa volonté ou à notre facilité à verbaliser nos requêtes. Dieu, il est pas à notre remorque. Hein? Il nous traîne. Nous, on est derrière. C'est lui qui nous fait avancer. Donc, son œuvre est pas limitée par nous. Aussi, notre union avec Christ nous assure son aide, son soutien, son intervention, celui de l'Esprit, 24/7, dans notre vie de prière, de manière à pallier à notre faiblesse face à la maladie, face à l'épreuve et les difficultés de la vie ici-bas. Et, dernièrement, Dieu le Père entend et répond toujours à la prière fervente. Venant de qui? Venant de son Esprit et venant de qui? Faut pas oublier que non seulement l'Esprit intercède pour nous, mais Jésus aussi, à la droite de Dieu, intercède pour nous. Et là, Jean 11, 41-42 dit ceci, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi. Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Alors, on sait que Dieu le Père, qui connaît les intentions de l'Esprit, qui connaît son Fils, alors Dieu répond toujours favorablement à leur prière. Et ça, c'est la garantie qu'on a. On peut être assuré, chacun de nous, là, si vous êtes unis à Jésus, si vous l'avez reçu comme votre sauveur personnel, le Saint-Esprit est là pour vous, il intercède pour vous, et Jésus est là aussi à la droite du Père, et il intercède pour nous pour qu'on puisse continuer la marche avec Dieu et notre parcours sur cette terre, avec tout ce qui vient avec. La bonne nouvelle, c'est que notre union avec Christ nous assure qu'il n'y a donc maintenant, quoi? Aucune condamnation. Ensuite? Aucun vide. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là, il habite dans nos cœurs, il est permanent. Aucun cul-de-sac. Pourquoi? Bien, parce qu'on s'en va dans une direction, puis notre direction, c'est la résurrection d'entre les morts. C'est ça la promesse. Donc, nous, il y a pas, on ne frappe pas de mur là, à la fin de notre parcours. Aussi, aucun déshéritement. Notre héritage est garanti. C'est certain qu'il nous attend. Et aucune vanité, exactement. Tout ce qui nous touche a un sens. Et Dieu accomplit sa volonté à travers les circonstances et même la souffrance, la maladie, ces choses-là. Et que là, comme on a vu, aucun abandon. Et la prochaine fois, pas la semaine prochaine, parce que c'est pour moi la semaine prochaine, mais la prochaine fois, c'est une vérité vraiment puissante pour un enfant de Dieu. Et on l'a entendu la semaine passée avec le pasteur Guito. Il n'y a aucun hasard. Aucun hasard. Encore là, Dieu est au contrôle. Il est souverain. Et on va voir l'aspect de la souveraineté de Dieu par rapport au salut, à l'élection et tout ce qui touche à cela. Et là, pour terminer, je vais lire un petit paragraphe dans le livre de Dane Ortlund, « L'œuvre glorieuse de l'Esprit ». Et ce que je suggère dans le chapitre 13, en m'appuyant une fois de plus sur l'aide de Thomas Goodwin, qui était un des puritains qui l'a étudié, c'est que l'Esprit rend le cœur de Christ réel pour nous. Il nous permet non seulement de l'entendre, mais aussi de le voir avec les yeux de la foi. Non seulement de le voir, mais aussi de le ressentir à l'intérieur de nous. Non seulement de le ressentir, mais aussi de le goûter, de l'expérimenter, de le vivre. Ce n'est pas juste des vérités intellectuelles. L'Esprit prend ce que nous lisons dans la Bible et ce que nous croyons en principe au sujet du cœur de Jésus et le fait passer de la théorie à la réalité, de la doctrine au vécu. Et là, quand ça se passe, peu importe dans quel domaine de notre vie, il y a quelque chose de Dieu qui se passe en nous. C'est une chose, quand nous sommes enfants, d'entendre notre Père nous dire qu'il nous aime. Oups, attendez, tu peux, je vais le mettre. Alors, d'entendre notre Père nous dire qu'il nous aime, c'est bien, c'est une chose, c'est fantastique. On le croit, nous le prenons au mot. Mais c'en est quand même une autre, indiciblement plus réelle, de ressentir son étreinte, sa chaleur, d'entendre son cœur battre, de nous savoir instantanément en sécurité dans ses bras. C'est une chose de l'entendre dire qu'il nous aime. C'en est une autre de ressentir son amour. Et là, il termine en disant, « Voici justement l'œuvre glorieuse de l'Esprit. » Il dit ceci, « Le cœur de Christ n'est pas distant malgré sa présence actuelle au ciel, car il fait tout par son Esprit. » Notons simplement que par l'Esprit, Christ non seulement nous touche lui-même, mais il vit également en nous. Jésus-Christ est plus près de vous aujourd'hui qu'il ne l'était des pécheurs et des affligés avec qui il a parlé et qu'il a touché durant son ministère terrestre. Par son Esprit, Christ enveloppe son peuple d'une étreinte plus étroite et plus forte que n'importe quelle étreinte physique le pourrait. Les actions qu'il a accomplies sur la terre lorsqu'il était dans un corps humain reflétaient son cœur. Le même cœur agit maintenant de la même façon envers nous, car nous formons aujourd'hui son corps, son Église. Christ est encore vivant. Jésus a dit à ses disciples qui craignaient son départ, qu'est-ce qu'il leur a dit? Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin dans la rue, laissé à vous-même, incapable de devoir passer à travers la vie avec tout ce que ça a comme défi, seul, débrouillez-vous. Non, je vais vous envoyer le Saint-Esprit et il sera en vous. Et ça, c'est la promesse. Donc, non, on n'est pas seul. Vous sentez-vous seul ce matin? Si vous sentez seul, vous n'êtes pas seul. Dites-le à votre âme. Mon âme, tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu est là. Jésus est là. Et je ne suis pas seul. Maintenant, si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur personnel, vous probablement vous vous sentez seul. Mais Jésus voudrait être votre ami comme on a chanté ce matin, qu'on a partagé même pendant le repas du Seigneur. Il voudrait être votre ami. Il voudrait venir faire son habitation en vous. Ça, c'est le miracle de la foi. Je vais vous inviter à vous lever. On va prier ensemble. Je vais inviter l'équipe. C'est peut-être une belle occasion ce matin de rencontrer le Seigneur là où vous êtes, d'ouvrir votre cœur, de simplement m'accompagner dans la prière. Et si les paroles que je donne vous rejoignent, ont un sens pour vous, si vous voulez ajouter quelque chose, Dieu, il est là, il vous voit, il vous connaît, il vous entend, et il va venir vers vous. Prions ensemble. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, c'est auprès de toi que l'on vient. Et c'est en esprit, Seigneur, qu'on se présente devant toi. La prière est ce véhicule par lequel tu nous permets de te parler et d'entrer en contact avec toi, Seigneur. Et ce matin, on veut te remercier qu'on n'est pas seul. On veut te remercier, Seigneur, que tu nous as donné ton Saint-Esprit pour qu'il puisse nous assister, qu'il puisse intervenir, qu'il puisse venir à notre secours. On a tellement besoin, Seigneur Dieu, d'aide. On a tellement besoin de soutien. Et merci, Seigneur, que même dans notre vie de prière, même lorsqu'on est complètement, il n'y a rien, on n'est pas sûr, on ne sait pas quoi demander, Seigneur, on sait que toi, par des soupirs inexprimables, tu sais communiquer au trône de la grâce ce qu'on a comme besoin. Et tu interviens et tu viens à notre secours. Et on peut ressentir même ta présence et ressentir ton intervention dans nos vies. Seigneur, permets à nos cœurs de se tourner vers toi. Permets à nos cœurs de crier à toi. Permets à nos cœurs, Seigneur, de te saisir par la foi et de te demander, Seigneur Jésus, peux-tu venir à mon aide? Peux-tu venir, Seigneur, dans la situation avec laquelle je vis présentement, qui me cause beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, avec laquelle je ne sais pas comment m'en sortir, je ne sais pas quelle est la voie de sortie, mais Seigneur, je me tourne vers toi et je veux te demander ton aide. T'es, Seigneur, ce 911 spirituel auquel je peux faire référence. Seigneur, est-ce que tu me vois? Seigneur, est-ce que tu m'entends? Seigneur, est-ce que tu peux, Seigneur, me donner cette assurance dans mon cœur que je peux me tourner vers toi, que tu es là, que tu es dans la situation que je vis, la situation qui est difficile pour moi présentement et que tu vas m'aider à passer à travers, Seigneur. Je te demande par établir dans mon cœur cette assurance que je peux compter sur toi, que je ne suis pas seul, mais que tu es là. Et si, Seigneur, il y a quelqu'un comme sauveur qui aimerait ce matin se tourner vers toi, qui aimerait te demander, mais Dieu, si tu existes, si c'est vrai que Jésus est venu, qu'il est mort sur la croix, qu'il a pris sur son corps, sur lui-même, mes péchés, et qu'en mourant sur cette croix, eh bien, c'était pour que mes péchés soient pardonnés et que je puisse avoir en retour le cadeau, le don de la vie éternelle. Mais Seigneur, si c'est tout ça est vrai, mais je te demande, manifeste-toi dans ma vie. Viens dans mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Si tu existes, tu es vivant, ben, je te demande de venir, puis prends place dans ma vie. Puis maintenant, ben, montre-moi que, justement, tu es là, que tu es vivant, puis que je peux te faire confiance, que tu es vraiment quelqu'un à qui je peux parler, que tu es vraiment quelqu'un qui va intervenir dans ma vie, qui va m'aider dans mon quotidien avec les défis que j'ai et que je vais voir ta présence, je vais voir ta main se manifester. Alors, je me tourne vers toi et je te demande, viens dans ma vie, sois mon sauveur, sois celui qui va me diriger, celui qui va m'accompagner. Je te fais confiance, je m'en remets à toi. Merci, Seigneur Jésus, merci d'être là, merci d'entendre et de voir chacun de nos cœurs. Et on se tourne vers toi et on te fait confiance. En ton nom, Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen.